Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, je vous propose un cours davantage thématique parce que nous nous apprêtons à retourner en Égypte pour parler entre autres de l'époque moins connue du Moyen-Empire que j'adore. Et donc, je vous propose un petit détour obligé par les momies. Parce qu'en effet, dans notre parcours plus chronologique, les anciens Égyptiens sont sur le point de mettre en place des pratiques de momification de plus en plus efficaces. Mais les momies d'Égypte sont loin d'être les plus anciennes. Alors, nous irons en effet faire un tour du côté du Chili et ensuite nous irons du côté des Alpes avec du temps passé sur l'histoire de la découverte fascinante du corps d'Ötzi, surnommé l'homme des glaces que vous connaissez probablement, et surtout sur les informations obtenues par diverses analyses qui ont été réalisées sur sa momie congelée. Et nous allons ensuite faire un tour en Égypte pour parler des momies du Nagada, époque que nous avons vue précédemment, et surtout du processus mis graduellement en place pour embaumer les corps afin qu'ils puissent permettre aux défunts de profiter de la vie éternelle. Je vous souhaite de bonnes découvertes! En français, le mot « momie » nous vient en réalité de l'ancien persan « mumia », qui voulait simplement dire « noir, foncé ». Parce que les momies de l'ancienne Égypte, mises au jour à l'occasion par les peuples arabes dans le pays après l'ère romaine, avaient souvent la peau noircie en raison, entre autres, de l'oxydation des résines utilisées pour hydrater et parfumer la peau dans le processus d'embaumement pendant l'Antiquité. Mais les plus anciennes momies de l'histoire sont en fait naturelles, ce qui veut dire que c'est la sécheresse des déserts ou la densité de la glace, entre autres, qui a préservé les corps, et c'est permettant en fait de bloquer ce qu'on pourrait dire l'activité bactérienne, rien qui puisse en fait entraîner la décomposition. Et ce type de momie est de plus en plus menacé parce que les changements climatiques font fondre des glaces, ça porte de la pluie en plein désert, donc de l'humidité. Et les plus anciennes momies connues et menacées par les variations du climat nous viennent du Chili, et plus précisément du très aride désert de l'Atacama. On les surnomme les momies de Chinchorro, et il s'agit des corps surtout de chasseurs-cueilleurs, semi-nomades pour les plus anciens, et plus tard de pêcheurs, davantage sédentaires pour les plus récentes. Donc ce sont des gens qui ont parcouru les littoraux du nord du Chili et du sud du Pérou surtout, entre 6000 et 1500 avant notre ère. Donc c'est pour ça qu'il y a des variations en fait dans les types de momies pour ces régions-là, parce qu'on couvre quand même une très très grande chronologie, mais donc je répète que pour les plus anciennes, on remonte à il y a plus de 7000 ans avant notre ère, ce qui en fait les momies les plus anciennes de l'humanité pour l'instant. Et pour cette raison, sachez qu'elles ont été inscrites en fait par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2021. Alors ça, c'est quand même assez récent. Et ces plus anciennes momies ont été préservées naturellement au départ grâce à l'aridité du désert, mais les Chinchorro ont aussi développé graduellement au fil du temps leur première technique de momification. On estime pour l'instant avec les données qu'on a que c'est vers à peu près 5050 avant notre ère qu'on va passer à volontairement essayer d'embaumer les corps, d'empêcher la décomposition. Donc ça veut dire que pendant presque 2000 ans, les corps sont placés dans le désert, parfois juste emmaillotés en fil dans de la matière végétale, placés dans le sable, et c'est le sable qui momifiait les corps. Mais là, vers 5050 à peu près avant notre ère, on va essayer de développer des techniques d'embaumement qui sont plus simples que celles des anciens Égyptiens, mais qui sont quand même assez étonnantes quand même, je vous dirais, pour l'époque surtout. Parce que ça consistait à enlever les muscles principaux, donc ça c'est quand même assez rare, et les organes, pour ensuite remodeler, resolidifier le corps avec des bâtons, des tiges de roseau et même de l'argile. Donc, on essaie de faire tenir l'ensemble, en fait, puisque là, il n'y a plus de muscles et qu'on a travaillé, en fait, sous la peau. Il y a plusieurs momies, d'ailleurs, qui ont le visage recouvert d'un masque qui est fait d'argile. Alors ça, vous allez voir ça là, sur le web. Et ça peut rappeler un petit peu les masques funéraires de d'autres sociétés, d'autres civilisations, mais c'est quand même assez unique, en fait, au désert de l'Atacama, ce type de masque en argile. Mais c'est sûr que si on compare ces techniques-là à celles qui sont plus élaborées de l'Égypte pharaonique, c'est sûr qu'au final, ces momies ressemblent davantage à des squelettes, je vous dirais, en ce qui a trait à leur apparence. Donc, vous pouvez aller voir. Mais c'est sûr que le climat aride de l'Atacama, ça a permis de conserver les momies des Chinchorro pendant des milliers d'années, en fait. Et certaines ont commencé à se dégrader assez rapidement, je vous dirais, depuis à peu près une décennie. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y a une augmentation de l'humidité dans l'air, changement climatique oblige, et ça, ça favorise la prolifération des micro-organismes et ça attaque la peau de ces momies. Alors là, elles sont en danger et c'est un petit peu la raison pour laquelle lesquelles elles sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO, on veut mieux les protéger, notamment dans des nouveaux musées. Mais c'est sûr que les pluies plus fréquentes qu'on voit depuis plus d'une décennie exposent aussi des corps qui étaient inconnus parce qu'ils sont cachés dans le sable. Bien là, la pluie crée de l'érosion et là, vous allez avoir des corps qui sortent et qui s'exposent à l'air et là, ça se dégrade très, très rapidement. Donc, on en perd en fait très probablement à chaque année. Mais les momies préservées par les glaces, elles, dans les montagnes, elles aussi, elles sont menacées. Et l'une des plus anciennes jamais découvertes, celle d'Odzi, toutefois, la chance d'être protégée dans un musée et d'avoir pu être étudiée sous presque toutes ses coutures. Alors, intéressons-nous maintenant à cette histoire fascinante qui, si vous le savez un peu, se rapproche des épisodes de balado de True Crime. C'est le 19 septembre 1991, des randonneurs qui marchaient dans la région du Tyrol, dans les Alpes, qui est la zone frontalière là, entre l'Italie et l'Autriche, qui ont fait la découverte d'un corps préservé dans les glaces. Il commençait à sortir un petit peu à partir de la taille. Et dès le départ, on se pose la question, est-ce que c'est un randonneur perdu? Est-ce que c'est un soldat de la Première Guerre mondiale? Parce que ça, c'est assez fréquent d'en trouver dans ces régions depuis bientôt 30 ans, en fait, de plus en plus à notre époque. Et ils ont dégagé le corps, ont même filmé leur découverte et en sortant le corps de la glace, ils ont mis au jour aussi des artefacts qui étaient, quand on les regardait, beaucoup trop anciens, en fait, pour qu'il ait pu s'agir là, d'un homme qui était mort, on va dire, récemment, en 91. Et donc, ils avaient découvert le corps humain le mieux préservé naturellement de l'histoire, parce qu'il est encore en meilleur état que les momies de l'Atacama, dans ce sens que c'est une momie naturelle dont même les organes internes sont préservés. Alors ça, c'est assez rare. Et on va le surnommer Odzi, en l'honneur de la région montagneuse, où il a été... assassiné. Mais avant de parler de son assassinat, regardons un petit peu la position du corps, qu'est-ce qu'on a fait comme étude aussi pour mieux le comprendre. Alors, le corps se trouvait dans la région de Luzzal, on est dans le Tyrol, et il était à plus de 3000 mètres d'altitude lorsqu'il a été découvert par le couple de randonneurs. Il était figé, comme je vous disais, à la taille, face contre terre. Donc ça, ce sont des images très connues que vous pouvez aller voir très, très facilement. Et il y a plusieurs personnes qui vont venir aider le couple à essayer de le dégager. On va terminer ça quelques jours plus tard, autour du 22 septembre, et on va aussi sortir de la glace tous ces objets qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre ou analyser sur le moment. Et donc, les archéologues vont tout de suite essayer de faire une première analyse dès 1991, et dès le départ, juste par les objets, les traces de vêtements qu'ils portent, ces bottes qui sont particulières, on va le dater déjà de plus de 4000 ans dès le départ. Et assez rapidement, on réalise qu'on a un trésor inestimable parce qu'on a une momie naturelle, donc pas artificielle, des tissus qui sont encore humides. On se doute qu'on a tous les organes à l'intérieur qui, un jour, nous permettront d'avoir une idée de ce qu'il a mangé. Et en fait, aujourd'hui, on peut vous le dire, son ADN a été préservé parce qu'on avait même des globules rouges d'intacts. Alors, Odzi, c'est le plus ancien corps le mieux préservé que nous avons, même si, oui, les momies de l'Atacama sont plus anciennes au final. Mais c'est aussi le cadavre le plus étudié au monde pour ces raisons, parce qu'il est congelé et il est gardé à l'Institut des momies des Dolomes de glace de Bolzano en Italie. Et lentement, au fil des décennies, grâce à l'évolution des technologies, on a été capable d'en apprendre vraiment beaucoup sur lui. On a analysé... au départ, surtout les objets, les vêtements qu'il avait. Parce qu'Odzi a été accompagné, en fait, d'un chapeau de fourrure, d'un manteau à 100 lambeaux quand même, de pantalons faits de différents morceaux de cuir qui étaient rapiécés, mais surtout de bottes en peau de chèvre des montagnes avec du rembourrage en tourbe. Ça, c'est assez fascinant à regarder. Allez sur le site, en fait, du musée de Bolzano. Vous pouvez trouver ces images très, très facilement, en fait, en ligne. Et il avait aussi un petit couteau de silex, de la nourriture séchés dans des baies et des champignons. Pour les champignons, les spécialistes suspectent que c'était peut-être à titre médicinal, ce qui veut dire que on est quand même à une époque pourtant, on est dans le néolithique à peine, en fait, on est encore en fait chez les chasseurs-cueilleurs du côté de l'Europe, on s'en va lentement vers la sédentarisation, qu'on ait déjà compris en fait les propriétés médicinales de certains champignons, c'est vraiment intéressant. Il avait aussi un fourreau en cuir avec 14 flèches, mais il y en avait juste deux qui étaient complètes, donc il était peut-être encore en train de les fabriquer quand il se déplaçait. Son arc n'était pas complété non plus, mais il est quand même très, très long. On parle d'un arc au total sur la longueur qui fait 1,82 mètres, donc à peu près plus de 6 pieds, pour tout dépendant de quel système métrique vous utilisez. Mais ce qui avait fasciné, c'est la hache qui devait avoir une très, très grande valeur à l'époque parce que la lame était en cuir et très, très bien travaillée. Alors, avec tout tous les objets qu'il avait, les analyses qu'on a pu faire, on sait qu'il a vécu il y a 5300 ans environ. Donc, il est vraiment un contemporain, en fait, des débuts de l'histoire égyptienne, l'époque du Nagada, dont on parlera à la fin de ce cours. Mais il était aussi un contemporain, si on s'en va ailleurs, de la civilisation d'Uruk en Mésopotamie, dont on a déjà parlé. Mais pour l'Europe, on n'est pas encore rendu dans des civilisations, ni même vers des populations très sédentaires. On est encore à une époque, on pourrait dire, de chasseurs-cueilleurs semi-nomades surtout, qui s'en vont lentement mais sûrement vers l'agriculture et la sédentarité là, pour cette époque-là. Et donc, on a utilisé le carbone 14, on a utilisé les rayons X, on a fait des analyses microbiales, on a utilisé la biologie moléculaire. Et bien là, plus récemment, avec les nouvelles technologies des analyses d'ADN, une tomodensitométrie, ce qu'on appelle un TACO, donc un CT scan, et on a fait ce coup de théâtre où on a dégelé pendant quelques heures le corps avant de le regeler immédiatement après pour qu'il ramollisse, pour pouvoir aller prélever différents échantillons de tissus mous et même pouvoir analyser en fait les contenus de son estomac. Et ça, ça a été toute une analyse fascinante. Il y a plusieurs chercheurs de différentes spécialités, en fait, qui ont pu travailler sur le corps pendant quelques heures avant de le recongeler. Et ça a permis de mieux comprendre qui était cet homme, comment il vivait. En fait, c'est comme avoir un microscope, en fait, sur le quotidien des hommes du néolithique d'Europe grâce à Audi. Et ce qu'on sait aujourd'hui, donc en 2025, c'est qu'il avait à peu près 46 ans à sa mort, ce qui était vieux pour son époque, quand même. Puis il était quand même en forme, hein? Il était très musclé. On voit que c'est un homme qui marchait souvent en montagne, qui n'était pas oisif, on peut dire ça comme ça. On sait qu'il avait les yeux bruns, parce qu'il a encore ses globes oculaires. Ça, c'est très, très rare sur des momies. Il avait les cheveux foncés, une barbe, des cheveux quand même assez longs. On sait qu'il mesurait 1,59 m, pesait 110 livres. Donc, ça vous donne une bonne idée de la taille des gens aussi à cette époque-là, des hommes en particulier. On croit qu'il était atteint de la maladie de Lyme, et ce serait pour l'instant le plus vieil exemple connu, et qu'il devait avoir des rhumatismes quand même assez douloureux là, quand on regarde un petit peu l'état des articulations, etc. Sa dentition, ben ça aussi, vous pouvez aller voir des images quand même, mais les dents d'Odzi sont plus ou moins en bon état, mais... on voit que ses mains, par contre, sont vraiment assez lisses. Donc, on se doute que c'est pas un homme qui devait travailler le sol. Ça devait être plutôt quelqu'un qui devait effectivement s'occuper de la chasse. Ça, c'est une des hypothèses, en fait, qu'on a avec Odzi. Et son ADN, correspond un petit peu à de l'ADN qu'on va trouver chez des gens dont le patrimoine génétique est resté sensiblement souvent dans la région de la Sardaigne. Il y a pas beaucoup de mélanges ethniques qu'on peut percevoir là, dans son ADN, mais c'est sûr que quand ce qui nous intéresse, en fait, c'est plus les objets aussi qui nous aident à comprendre le mode de vie d'Odzi. Parce que, bon, comme je vous disais, on sait qu'on est dans la transition vers l'agriculture. On voit, en fait, l'importance encore de la chasse, vu son fourreau avec les flèches, son petit couteau en silex aussi. C'est pas une époque pour laquelle on a de l'écriture. Donc, Odzi, c'est vraiment, en fait, il représente toutes les connaissances qu'on peut avoir pour la vie dans la région des Alpes à cette époque-là. Et donc, les outils, surtout ses équipements, sont probablement ce qui est le plus important pour comprendre son mode de vie et les produits qui étaient peut-être utilisés et consommés. Donc, on se doute qu'il vivait dans un village en bas de la montagne, et ça a été découvert grâce au pollen. De plus en plus, les analyses de pollen permettent des fois de savoir d'où viennent les gens, où est-ce qu'ils ont voyagé avant d'arriver à leur destination finale. Et donc, on sait qu'Odzi n'avait pas voyagé tant que ça. Là. Il était vraiment dans la région où il habitait, mais il vivait probablement juste en bas, en fait, de la montagne où il a été découvert à plus de 3000 mètres, comme je vous disais, là, de hauteur. Et on suspecte, donc, qu'il aurait pu être un chasseur en montagne dont le métier était de rapporter de la viande et après ça, de pouvoir aussi fournir du cuir pour les vêtements, les sacs, les gants, etc. Parce que lui, il a beaucoup d'objets en cuir sur lui. Mais l'état de son corps nous montre qu'il est habitué de voyager en montagne. Et l'étude de son estomac, ça a quand même été assez intéressant, nous démontre qu'il mangeait assez équilibré, qu'il était quand même assez costaud. Donc, on a trouvé, en fait, des restes de viande de bouc qui étaient probablement cuites. On a trouvé des baies, mais ça, il y en avait dans son petit sac aussi. Quelque chose qui ressemble à du gras, on ne sait pas si c'est du bacon ou du fromage, mais il y a du gras aussi dans son estomac, du pain d'épeautre, une matière végétale qui pourrait ressembler à de la fougère. Et dans son sac, ben c'est ça, il y avait aussi des champignons séchés qui étaient tous tout rattaché, en fait, là, après une lanière de cuir. Et y en, ceux qui étaient attachés, on sait que c'était un antiseptique. Alors, ils devaient peut-être comprendre que ça aidait à guérir des plaies, même si c'est sûr que c'est une époque où on n'a aucune idée de ce qu'est une bactérie, là. Mais les champignons devaient probablement être appliqués sur les plaies pour essayer, en tout cas, d'empêcher là, que, une plaie s'infecte. Et on en a trouvé un autre aussi qui était séché, mais que, qui peut brûler vraiment très, très longtemps s'il est séché. Donc, on se doute qu'il est peut-être une source de combustible pour pouvoir se faire un feu, peu importe où il se trouve, et surtout s'il n'a pas accès à du bois, ce qui peut être le cas en pleine montagne alors que c'est enneigé. L'autre particularité de Ti, c'est qu'il y a 61 tatouages qui ont été recensés jusqu'à présent sur son corps. Donc, c'est une des plus anciennes momies tatouées, si ce n'est pas la plus ancienne. C'est difficile de dire hors de tout doute parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut être découvert dans les prochaines années. Mais on parle de tatouages, par contre, qui ne sont pas des tatouages figurés. Plus tard, je vais vous parler des plus anciennes momies avec des tatouages figurés. Mais donc, ce sont des lignes qui sont regroupées en série. Et ça, on sait que c'était fait avec des aiguilles en os qu'on trempait là, dans le charbon d'un feu et ça se faisait par ponction, ce qui devait être quand même assez douloureux. Et c'est concentré souvent à des endroits où on peut avoir des douleurs, donc l'intérieur des genoux, le ventre. Et c'est un peu la raison pour laquelle, dans les hypothèses en lien avec ces nombreux tatouages-là, on pense que c'était peut-être associé à des rituels pour soigner et diminuer la douleur de certaines blessures ou même des douleurs abdominales, douleurs digestives, etc. Et donc, on dit, c'est sûr qu'on a fini par comprendre aussi en étudiant son corps après l'avoir décongelé. On a pu confirmer quelque chose, c'est qu'il n'est pas mort naturellement. Il a été assassiné. Et ça, c'est toutes ces analyses-là dont je vous parle ont commencé en 2017, là, lorsqu'on a décongelé le corps. Et bon, c'est sûr que tout ce qui a été prélevé, tout ça peut être étudié dans les années subséquentes. Mais donc, c'est sûr que vous dites, quand on le regarde, il y a une apparence un peu macabre déjà, parce que le corps est couché face contre le sol, donc le visage un peu écrasé. Ça a fait une forte pression aussi sur son torse, donc il y a un côté du visage qui est pas... qui a l'air vraiment un peu écrasé. Et donc, déjà en 2001, donc on est 10 ans après la découverte, il y a un radiologue qui avait vu quelque chose d'étrange à l'épaule gauche, et on s'est rendu compte que c'était probablement une pointe de flèche en silex, en fait, et que les tissus s'étaient peut-être accumulés autour. Et on se demandait est-ce que c'est ça, en fait, qui a provoqué la mort d'Odzi. Aujourd'hui, on peut dire que très probablement, donc, il a reçu une flèche qui a provoqué une hémorragie en quelques minutes. Et il a probablement essayé de retirer la flèche, d'ailleurs, ce qui n'a pas aidé son cas. Et c'est comme ça qu'avec toutes ces données-là qu'on a accumulées depuis, entre autres, 2017, là, on s'est dit, OK, on a un homme qui a été assassiné d'une flèche tiré probablement à une assez bonne distance. Et c'est comme ça qu'on a décidé de joindre aux analyses un policier profileur allemand. Il s'appelle Alexander Horn. Il va étudier, en fait, les objets, la position du corps, tout ce qu'on a pu trouver. Mais il a étudié ça, en fait, comme une scène de crime. Et il va quand même s'amuser, je vous dirais, avec le code d'Odzi et nous donner des informations qui sont quand même assez intéressantes. Donc, il a pris vraiment toutes les données. Il a essayé de reconstituer l'assassinat. Il a réalisé qu'il avait des blessures aux mains, dont une quand même assez grave au pouce. Ça lui laisse croire que c'était probablement battu 2 jours avant sa mort. Là, ici, il y a quand même collaboration aussi avec les médecins spécialistes qui ont étudié le corps dans ce cas-ci. Vu la blessure au pouce, il a peut-être même tué son adversaire. Donc là, on est en train de vous faire, comme je vous disais, plus un épisode de True Crime avec l'histoire d'Odzi. Il est parti avec beaucoup de matériel, donc il était très préparé pour son voyage en montagne, donc il ne semblait pas être quelqu'un d'inquiété, même si ses flèches n'étaient pas terminées. C'est comme s'il allait les terminer en... à temps perdu quand il attendait peut-être pour ses proies en montagne, et ça pourrait être une des hypothèses. Et on sait qu'il a pris le temps de manger quand même un bon repas 2 heures avant sa mort, qu'on vous a décrit tantôt. Et si la nourriture était en partie cuite, ça veut dire qu'il avait pris le temps de faire un feu. Donc, encore une fois, on a comme cette idée que Odzi était peut-être pas pressé. Comme je vous disais, il a reçu une flèche en silex, mais qui a été tirée quand même à une bonne distance par derrière. Et la personne qui l'a tué, il l'a laissé là. Donc, Odzi est tombé dans la neige, a peut-être essayé de retirer la flèche. Il est mort d'une hémorragie très, très rapide et la neige l'a recouvert, et c'est comme ça que le corps, en fait, a été préservé. Donc, M. Horn, lui, en vient à, je dirais, l'hypothèse que c'est un meurtre passionnel. Et il n'y a pas eu de vol sur le corps d'Odzi, parce que ça, c'était quand même une des hypothèses de départ. Sa hache est tellement rare, devait valoir tellement cher qu'on s'est demandé au début si c'était peut-être pas ça qui avait soulever, susciter, pardon, la convoitise de son assassin, mais dans un cas comme ça, il lui aurait probablement volé. Donc, non, il ne l'a pas fait, mais peut-être que ça aurait été trop remarquable, en fait, si on lui avait volé, parce qu'il devait être un des rares hommes à posséder une hache comme ça. Mais là, pourquoi on parle d'un meurtre passionnel? Est-ce qu'il avait tué l'ami de quelqu'un? Est-ce qu'il avait eu une aventure avec une dame avec laquelle il ne fallait pas? Ça, on ne le sait pas, et on ne le saura probablement jamais. Mais donc, on peut quand même conclure que Oddi a été assassiné quand même à bonne distance, et la personne n'était pas intéressée à amener le corps ou même à ce qu'on s'intéresse en fait à ce corps-là en le laissant à plus de 3000 mètres d'altitude. Et allons maintenant en Égypte pour nous intéresser brièvement aux plus anciennes momies de ce territoire qui sont celles de l'époque du Nagada qui, comme je vous le disais, nous en avons parlé de cette époque-là dans un cours précédent et elles sont contemporaines de celles d'Oddi. Les momies du Nagada, ce sont des corps qui ont été inhumés dans le désert du Sahara il y a plus de 5300 ans, donc on est vraiment là, dans une période assez contemporaine ici là, avec Oddi et même dans les plus anciennes momies de l'Atacama. Et ce sont des corps qui ont été placés en position fœtale dans de simples fosses creusées à même le sol. Donc, comme pour le désert de l'Atacama, l'aridité de la région combinée à l'effet préservateur du sable compacté et du sel aussi qu'il contient, ça contribue à dessécher naturellement les corps et donc à en faire des momies qu'on appelle naturelles. Et les gens étaient inhumés aussi avec de simples objets comme des bols et c'est sûr que ça laisse planer l'idée qu'on avait peut-être la volonté, en tout cas, d'apporter quelque chose vers l'au-delà, mais on ne peut pas confirmer en fait quelle vision les gens du Nagada avaient de l'au-delà, outre quelques dessins là, associés à des bateaux à l'eau, parce que ces populations égyptiennes qui sont pré-pharaoniques ne nous ont pas laissé d'écriture. Donc ça, c'est un petit peu un problème en ce qui concerne toute cette histoire de comment la vision de la vie après la mort en Égypte en fait a commencé à se développer. Mais ces types de momies-là sont bien connus parce que, entre autres, le British Museum en expose quelques-unes depuis le tournant du 20e siècle, parce que elles ont été, une partie d'entre elles, découvertes dans le cadre de fouilles qui avaient été réalisées dans le sud de l'Égypte, dans le secteur, en fait, aujourd'hui, de ce qui est Louxor. Enfin, on est en 1899, on les a appelées les momies de El Gebelein, et on va rapidement, en fait, en prendre quelques-unes pour les exposer, parce que c'était fascinant quand même de voir ces corps en position fœtale, qui avaient été quand même très, très bien préservés. Mais bon, on est rendu à notre époque, alors dans les années 2000, là, on va commencer à les analyser avec les technologies modernes. Donc, encore une fois, les corps, entre autres, du British Museum vont passer par la tomodensitométrie, là, comme je vous dis, les CT scans, qui permettent d'avoir une vue en trois dimensions du corps, extérieur, intérieur, mais sans qu'on ait à le manipuler ou à l'endommager. Mais on va commencer aussi à utiliser les plus récentes technologies en imagerie infrarouge, rayon X. Et ça, pour la première fois, ça a permis de bien sculpter la peau qui est quand même assez foncée parce que, comme je vous disais, le sable, le sel, oui, ça dessèche, ça préserve le corps, mais ça a tendance à faire rougir, même noircir un petit peu la peau. Et les chercheurs ont été très, très surpris parce qu'ils ont découvert les plus anciens tatouages figurés sur ces momies. Et ça faisait plus d'une centaine d'années, en fait, qu'elles étaient exposées au British Museum sans qu'on ait aucune idée, en fait, qu'elles avaient des tatouages, notamment sur les épaules. Et là, ce ne sont pas des lignes ou des points, mais vraiment des... Quand on dit des tatouages figurés, c'est qu'on reconnaît en fait l'image. On a un mouton, on a un auroch, donc qui est un ancien bovidé là, qui est disparu aujourd'hui sur le bras droit d'un homme. Et sur l'épaule droite d'une femme, là, on a une série de formes en S. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça signifie. Mais on se pose la question, est-ce que c'est une façon d'identifier un clan, un rang social? C'est une possibilité. Et c'est sûr, les momies de ce qu'on appelle l'époque du Nagada ont, pendant longtemps et encore aujourd'hui, amené l'hypothèse que, est-ce que ce serait possible que les Égyptiens des époques ultérieures, donc pensons à l'époque de l'unification, le sous Narmer, entre guillemets, et l'époque de l'Ancien Empire, est-ce que des Égyptiens auraient pu tomber sur ces corps momifiés naturellement et amorcer cette réflexion sur, si les corps ne sont pas décomposés, est-ce que ça signifie qu'on en aurait besoin pour la suite des choses? Est-ce que ça prouve, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose après la mort et que le corps continue son chemin? Chose certaine, à partir de la fin de l'Ancien Empire, les Égyptiens vont commencer à améliorer graduellement leur technique de momification dans le but de préserver les corps des pharaons et éventuellement des gens qui en avaient les moyens pour l'éternité. Et bien que les Égyptiens aient peu écrit sur le sujet, parce que c'est un secret en réalité, donc on n'en parle pas, ben aujourd'hui, on a quand même une très, très bonne idée du processus qui a été développé, notamment au cours du Moyen Empire, qui sera par ailleurs le sujet de notre prochain cours. Et donc, on sait que la momification était réalisée par des prêtres et des embaumeurs qui, eux, ne se mêlaient pas à la population générale en raison de la particularité de leur métier, qui était assez secret, mais qui était associé à quelque chose quand même aussi d'assez sombre, hein? Et on sait aujourd'hui que la momification se faisait en plusieurs étapes importantes. On peut remercier les découvertes archéologiques d'ateliers de momification récentes qui sont venues confirmer un peu les hypothèses, mais aussi ce qu'on peut appeler la science archéologie expérimentale, parce qu'il y a des corps qui ont été donnés à la science qui ont été utilisés pour essayer de vérifier en fait si les hypothèses quant à la momification étaient assez justes. Alors, l'ensemble de tout ça nous permet d'avoir une bonne idée en fait de comment ils vont commencer à s'y prendre. Et la première étape, mais va consister à retirer, un peu comme les momies du désert de l'Atacama, ben les organes qui vont entraîner rapidement la décomposition du corps. Mais on ne touche pas aux muscles du côté des Égyptiens. Et on va perforer une narine du défunt pour pouvoir bien y insérer un long crochet. Il faut imaginer un crochet à tricoter, mais vraiment long. Et le but, c'est d'aller réduire le cerveau en bouillie et de le sortir par le nez. On se doute que les Égyptiens n'avaient aucune idée de ce à quoi servait le cerveau. Parce qu'à leurs yeux, c'est le cœur qui est le siège des émotions et de la pensée et de la raison. Alors, le but, c'est de le sortir pour éviter qu'il décompose la tête et qu'il la déforme, parce qu'on veut être beau pour l'éternité. Et on va y insérer souvent ensuite des copeaux de bois, du sel, du lin, des fragments de papyrus pour faire une bourrure, mais aussi pour absorber tout ce qui pouvait rester d'humidité. Parce qu'on va comprendre graduellement, surtout au cours du Moyen Empire, que c'est ça, en fait, qui entraîne la décomposition du corps et qui empêche d'avoir une belle momie et donc un corps intact pour l'éternité. Ensuite, on va faire une incision, généralement de ce qu'on observe très souvent, fait pratiquer sur le flanc gauche, et on l'utilise pour aller chercher les organes internes, à l'exception du cœur. C'est assez rare, en fait, que le cœur n'est pas dans la momie. Il reste là parce qu'il est, comme je vous disais, le siège de la pensée. Il est essentiel pour le voyage vers le jugement dernier dans l'imaginaire là, des anciens Égyptiens. Les reins, on pense qu'ils étaient généralement jetés, possiblement par ignorance de ce à quoi ils servaient, mais les autres organes, comme l'estomac, les poumons, ben, eux autres étaient placés dans des fameux vases canopes pour que le défunt puisse continuer à respirer et surtout profiter de bons repas dans sa vie éternelle. Et ensuite, ben, le corps, lui, est recouvert de natron. Le natron, c'est un mélange naturel là, qui est composé essentiellement de sel, de bicarbonate de soude qu'on va trouver dans le désert et qui va permettre aux anciens Égyptiens là, de retirer toute l'humidité de la peau. Alors, toujours selon les moyens financiers de la famille, parce que ça, c'est très important. Il y a beaucoup de variations dans la qualité des momies. Le corps va y rester entre 35 et 70 jours environ. Donc, on couvre vraiment le corps là, d'une montagne de natron. Et après 70 jours, ben là, vous avez vraiment une momie. Hein. Ça, je vous dirais que les tests qui ont été faits sur des corps donnés à la science l'ont bien démontré. Le corps est entièrement desséché. Et là, parce qu'il est complètement desséché, les embaumeurs vont frictionner la peau avec des résines parfumées dans le but de lui redonner un peu de souplesse et de s'assurer que le défunt ben, sente bon devant les dieux. Et ensuite, ben, on va procéder au fameux bandelettage. Encore une fois, la qualité des bandelettes varie selon les moyens financiers de la famille et on va s'assurer de placer des amulettes protectrices à différents endroits. Et ça aussi, ça va varier au niveau de la qualité des amulettes. Est-ce qu'on va avoir des amulettes en or ou en argent, donc là on est vraiment souvent dans les familles royales, des gens des plus hautes classes, on peut en avoir en fait qui sont faites en os, on peut en avoir qui sont faites avec différentes pierres, donc c'est très variable pour le type de matériaux qui sont utilisés pour les fameuses amulettes. Une des plus connues, ben, vous la connaissez peut-être, là, c'est le Oudja, donc l'œil d'Horus, qui est une amulette reconnue là, pour protéger des maladies dans l'au-delà. Et la qualité donc des momies égyptiennes que l'on découvre ben, va varier énormément en fonction des époques. Donc là, c'est vraiment au cours du Moyen Empire que toutes les techniques que je viens de vous décrire vont commencer à être essayées, testées, mises en place. Et c'est au Nouvel Empire vraiment qu'on va entrer dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la momification par la suite. Et c'est sûr donc que la qualité va varier selon l'avancée des connaissances sur la décomposition du corps humain, mais aussi, surtout et toujours, en fonction du rang socio-économique des familles. Alors, pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, je vous suggère comme lecture Udzi, l'homme des glaces, par Angelica Flickinger. C'est paru chez Folio. Donc, c'est une bonne synthèse un petit peu de toutes les analyses qui ont été réalisées sur ce corps très important pour nous et pour l'histoire. Et je vous suggère, elle est en anglais, mais je la suggère parce que c'est probablement une des meilleures synthèses encore en 2025 sur la momification et la vie après la mort là, en Égypte ancienne. Ça s'appelle Death and the Afterlife in Ancient Egypt par John H. Taylor et c'est paru aux presses universitaires de l'Université de Chicago. Et si vous souhaitez suivre mes actualités sur les réseaux sociaux, en histoire, en archéologie, j'ai toujours mes deux comptes Facebook pour l'instant là, qui sont Evelyne Ferron, historienne, et mon compte vraiment d'actualité quotidienne qui est Historiophile. Et je fais aussi des actualités avec mon compte personnel sur X à l'occasion maintenant, là, je le délaisse vraiment, et j'ai migré en fait officiellement là, vers Blue Sky, où vraiment là je fais ma revue de presse quotidienne, et c'est pas mal plus facile aussi de pouvoir cliquer sur les liens, donc j'apprécie beaucoup Blue Sky. Et dans votre cas, si vous appréciez ces cours d'histoire, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes pour que mon cours devienne un peu plus visible et à partager les épisodes afin que d'autres personnes le découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours!